Bonsoir.
Bonsoir, faut prendre des petites feuilles, voilà.
Voilà, ils sont finis les jours de la Passion. Vous savez qu'on dit ça dans la liturgie catholique au moment de la fin de la célébration de la Pâque, au moment de la bénédiction. Ils sont finis les jours de la Passion, donc joyeuse Pâque à tous. Heureux temps pascal, puisque la dernière fois que nous nous sommes vus, c'était encore le carême. Voilà, alors je ne sais pas si... Il y a un lien, effectivement, mais de fait, comme la tradition du carême est souvent une tradition de jeûne, ou en tout cas d'unification de sa vie, de simplification de sa vie, de mortification, comme on disait jadis, on n'ose plus utiliser le mot, mais... voilà, donc cette question, effectivement, des régimes alimentaires, si je puis dire, on a 2 mois de vacances d'été, mais... c'est quelque chose qu'il fallait que nous envisagions dans ce parcours sur la nourriture, sur les repas, sur la tradition des repas, qui est quand même fondamentale dans ce monde méditerranéen et proche oriental. Ça n'est pas pour rien que le Christ, bonsoir Marc, que le Christ a choisi la scène, le dîner. Et on peut imaginer que ce dernier dîner, était-il d'ailleurs le dîner de Pâques ou pas, on ne sait pas bien, mais enfin que ce dîner devait être à la fois joyeux comme tout dîner amical et en même temps revêtir une forme de gravité et même de tension assez dramatique étant donné le pressentiment qu'ils avaient tous de ce qui allait se passer à l'issue de ce dernier repas. À chaque fois je pense d'ailleurs à ce film Des Hommes et des Dieux, vous vous souvenez peut-être, où on voit le dernier repas des moines de Tibérine, des trappistes, et on entend le lac des Cygnes, il me semble, et c'est tout à fait impressionnant, et évidemment la référence à la scène et à toute une tradition picturale est présente dans les différents plans de ce film, qui a déjà une dizaine d'années. Alors donc, il était normal qu'on en vienne à parler de la tradition, de l'alimentation, de la nourriture, de la pureté rituelle, du code alimentaire qui appartient à la Torah, qui appartient à la loi juive, avec plusieurs sources, essentiellement le Lévitique et le Deutéronome, mais aussi la parachate qui concerne Noé, vous avez les animaux dans l'arche, etc., l'alliance avec Noé. Donc, au mois d'avril, pour cette séance, cette avant-dernière séance, nous avons pensé justement envisager cette question du rapport des disciples, du rapport des chrétiens, du rapport de nos églises avec les prescriptions alimentaires rituelles chez les juifs, qui sont d'une complexité dont on aurait tort de sourire d'ailleurs, hein, parce que la cache-route, évidemment, dans sa complexité, est aussi un sommet de civilisation, d'une certaine manière, et un rapport au monde créé, au monde alimentaire, à ce qui entre dans le corps de l'homme, ce qui n'est pas rien. Hein. Quelquefois, à l'époque de la malbouffe, on oublie un peu à quel point l'acte de se nourrir est un acte très noble. Et donc, le génie aussi d'Israël, ça a été d'interpréter, alors les sources historiques et archéologiques sont sûrement, et sanitaires probablement, sont sûrement innombrables. Moi, je suis loin d'être un spécialiste de ces questions, mais en tout cas, il est certain que les disciples se sont trouvés confrontés à cette question. Lorsqu'on est libéré par la Pâque du Christ, lorsqu'on est sous le règne de l'Esprit de Pentecôte, lorsqu'on est sous le régime de l'esprit, qu'est-ce qu'on doit garder de l'ancien régime, si on peut dire. Voilà, c'est le cas de le dire. D'ailleurs. Voilà, très bien.
Alors,
bienvenue à Marc pour cette séance d'avril.
Merci Jérôme.
Bienvenue
à chacune et chacun d'entre vous, donc à Saint-Eustache. Alors, j'ai un peu regardé sur les règles de cache-route. Effectivement, on avait marqué Lévitique. Et puis, bon, effectivement, c'est un peu plus large que ça. Comme tu le disais, il y a le Deutéronome, il y a l'alliance avec Noé. Alors j'ai cherché quand même pour me documenter pour cette séance, mais c'est des choses qu'on connaît quand même un petit peu, parce qu'effectivement ça apparaît pas mal l'Ancien Testament. Donc en le lisant, on rencontre ça. En voyant l'épisode de Pierre avec Corneille que nous allons lire, c'est en référence évidemment avec ça, donc c'est quelque chose qu'on étudie. Mais en fait, si vous voulez, la question c'est que le judaïsme, c'est pas tellement une religion de la Torah en fait. C'est une religion de l'interprétation de la Torah. C'est-à-dire qu'ils ont la loi écrite et la loi orale. La loi écrite, c'est ce que nous avons dans les cinq livres qu'on appelle le Pentateuque, qu'ils appellent la Torah, donc Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Mais c'est pas tellement ça qu'ils suivent finalement ou qui les passionne avant tout, c'est le Talmud et c'est l'interprétation de l'interprétation finalement, et c'est ça qui compte beaucoup. Et heureusement, parce que j'allais dire, c'est surtout je vais encore dire du mal des gens, j'ai un peu honte, mais
de la charia.
Non, c'est surtout les protestants fondamentalistes qui vont aller lire ces textes plutôt au pied de la lettre, dans une interprétation là encore traditionnelle dans leur église. Les juifs le font pas. C'est ainsi que par exemple il y a des commandements de lapider les enfants quand ils sont passage. Remarquez, si vos enfants désobéissent, c'est facile, vous allez les accompagner au Sanhédrin, le Sanhédrin les porte à la porte de la ville et les lapide. Donc effectivement, il n'y a que des enfants, je suppose, super obéissants après ça, ou plus d'enfants du tout, je ne sais pas. Et donc pour les préceptes alimentaires, c'est un peu ça, mais presque dans l'autre sens, c'est-à-dire que la loi orale, elle va amplifier ça, faire des remparts autour des commandements, et il y a des discussions pour savoir à quoi ça sert. Et donc, quand on regarde, il n'y a jamais une fois, j'ai vu, que ça servirait pour plaire à Dieu, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas pour avoir des bons points, compter des bons points, et ça, c'est quelque chose qu'on verra plus chez les musulmans, à mon avis. Si on manque une journée de ramadan, on perd des bons points, il faut rattraper, si on rattrape, si on fait la prière à tel endroit, si on jeûne bien, on a des bons points, etc. Donc, ce n'est pas du tout l'optique. Du judaïsme autour de ces lois alimentaires. Alors on a pu parfois dire que c'était des règles d'hygiène, mais en fait c'est pas vraisemblable, parce que par exemple le cheval ou le chameau sont excellents pour la santé, c'est très des nourritures, des bistecs si je puis dire tout à fait sains, et c'est interdit. Le cygne qui est interdit, je sais pas si tout le monde a envie de manger du cygne, je sais pas si c'est bon, j'en sais rien. Et puis les crevettes, c'est tout à fait excellent, c'est interdit. Donc c'est pas ça, je pense. Et les rabbins disent que c'est pas ça. On pourrait dire, est-ce que les aliments auraient une influence secrète sur le spirituel? Il y a des gens qui disent ça, mais je crois que non, pas tellement. L'objectif, on le voit par exemple dans le Lévitique 11, au verset 45, alors il dit les interdits, à la fin des interdits alimentaires. Il dit, ne vous rendez pas impurs avec ces bestioles impures, car c'est moi le Seigneur Yahvé, votre Dieu. Vous vous sanctifierez donc pour être saint, car je suis saint. Et donc la question, c'est la sanctification en fait. L'objectif, c'est la sanctification, de se sanctifier. Alors qu'est-ce que veut dire se sanctifier? Ça veut dire être mis à part pour un service divin en fait. Pour une vocation personnelle. C'est pas comme ça a pu l'être dans l'imaginaire, populaire, un diplôme qu'on est au-dessus de la moyenne, être saint. L'apôtre Paul dit qu'on est tous saints, finalement. Il s'adresse aux saints qui sont à l'église de Rome, c'est toute l'église, en fait. C'est ça, en fait, on est sanctifié par Dieu et on se sanctifie en prenant conscience de notre unicité et de notre vocation personnelle. Alors là, dans ce cadre-là, c'est plus la vocation d'un peuple, en fait, dont font partie tout le monde, donc c'est aussi pour chacun, évidemment, mais c'est vrai que ces règles de cache-route, ça crée une coupure, en fait. C'est-à-dire que, du coup, on ne se mélange pas. Et c'est vrai que si... c'est pas facile d'inviter un juif à manger, et si c'est un juif très observant, il aura beaucoup de mal à l'accepter. Parce que les règles sont tellement compliquées, comme le disait Jérôme, que finalement c'est insolvable.
Puisque ça s'étend aux récipients, etc.
Ça s'étend à tout. Alors moi, quand j'invite un juif, en fait, je fais un poisson en papillote, parce que s'il n'y a pas de problème de vaisselle. Alors parce que il y a les règles. Alors, il y a trois, c'est sur trois points. Dans Lévitique 11, qu'on voulait mettre, mais finalement, on n'a pas mis tout ce texte parce que ce n'est pas passionnant. S'il y a des bêtes qui sont impures à manger, des bêtes qui sont pures. C'est le premier commandement, finalement, qu'on trouve là, bien dans le Lévitique, dans le Deutéronome, ça y est, plusieurs fois, il n'y a pas de problème. Les autres, ce n'est pas si clair. L'interdit du sang, c'est la deuxième chose. Ça, c'est ce qu'on retrouve chez les musulmans. Alors, une seule bête impure chez les musulmans, c'est le cochon, le porc. Et il y a l'interdit du sang. C'est-à-dire de manger le sang. Il faut que la bête soit sacrifiée bien comme il faut, soit saignée avant d'être mangée. Ça, on le trouve dans la règle avec Noé. Alors, quand on regarde le commandement, normalement, tout le monde est végétarien. Quand on voit Genèse 1, tout le monde doit manger de l'herbe verte, y compris les animaux. Et puis finalement, Dieu se rend compte, à l'occasion du déluge, qu'en fait, il est obligé de faire le deuil d'une humanité parfaite, d'une humanité non violente. Alors, bon, c'est raconté comme ça dans l'épisode du déluge, mais à mon avis, c'est plutôt, il nous invite à une conversion de notre théologie entre une première idée de Dieu qui veut des gens qui sont purs, qui sont non violents, ils gardent que les meilleurs, et il envoie une gigantesque chasse d'eau, envoyer ceux qui sont moins bons, convertir notre théologie de cette idée d'un Dieu juge terrible au Dieu de l'alliance avec Noé, qui dit, de toute façon, il faudra bien faire avec, l'humanité est violente, donc on va faire avec, je vais faire alliance avec eux. Si la colère me reprend et que j'ai envie d'exterminer cette humanité définitivement impossible, je verrai mon arc-en-ciel et je me rappellerai que j'ai promis de ne pas les écrabouiller. Et il dit, alors il reprend l'alliance faite avec Noé, de croître et de multiplier tout bien, mais il dit, maintenant, vous mangerez quand même des bêtes, mais vous enlèverez quand même le sang. Donc ça, l'interdit du sang, on le retrouve là. Et puis le troisième interdit principal des Juifs, celui qui est un peu casse-pied, en fait, pour inviter des Juifs à manger, c'est de séparer le lait de la viande. Et ça repose sur un vague petit verset avec marqué « Tu feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère ». Si on le prend au pied de la lettre, tant qu'on ne fait pas de la chèvre à manger, du chevreau à manger, moi j'en ai mangé une seule fois du chevreau, c'est invité par des paysans de l'Ardèche, mais je ne sais pas si ça se vend chez le boucher, moi j'en ai jamais vu, donc ce n'est pas évident. Mais ils ont étendu ça, il faut complètement séparer le lait de la viande. Et donc si vous allez chez des Juifs, il y a deux vaisselles, une pour ce qui est lacté, une pour ce qui est carné, deux batteries de cuisine, et les Juifs rigoristes, ils ont même carrément deux cuisines en fait. Ça peut aller très très loin. Donc du coup c'est difficile. Alors, si vous voulez, à quoi ça peut servir? Quelle est la signification de ça? Pour le choix des animaux, en fait, très peu sont autorisés. On le connaît, hein, il faut que le sabot soit fendu et qu'il rumine. Alors, par exemple, les exemples dans la Bible qui est donnée, le chameau, il rumine, mais il n'a pas de sabot, il a des sortes de pattes toutes molles, donc on n'a pas le droit de le manger. Ou bien le porc, il a un sabot fendu, mais il ne rumine pas, donc on n'a pas le droit de le manger. Alors ils disent que le lièvre, je ne sais plus très bien, il rumine, mais il n'a pas de sabot. Alors je ne suis pas sûr qu'un lièvre rumine, mais...
En fait, c'est un faux ruminant, oui. Ah bon? oui, parce qu'il a une double digestion, mais qui n'est pas une rumination. Voilà.
D'accord.
Donc les rabbins acceptent aujourd'hui, je crois.
Ah, d'accord.
Ouais.
Enfin, donc, quel est le règlement là-dessus? Alors, moi, ce qui me plaît le mieux là-dessus, si vous voulez, alors ils disent qu'effectivement, c'est un peu comme Philon d'Alexandrie, on le connaît bien, Philon d'Alexandrie, c'est un juif, grec en fait, puisque Alexandrie, il lit la Bible dans les Septante, et il est un peu comme Origène, finalement, à Alexandrie, dans cette interprétation un peu allégorique, en fait, de la Bible. Mais finalement, c'est ce que retiennent les juifs libéraux, en tout cas, ils s'intéressent au sens, si vous voulez, de ces règles, et souvent, ils retiennent un peu ce que dit Philon d'Alexandrie, c'est-à-dire que le sabot est fendu, donc ça invite à pas tout mélanger, en fait, à discerner, à bien distinguer les choses, et puis ruminer, ça veut dire qu'il faut ruminer ses décisions, ruminer la parole, ruminer les... la bonté et la grâce de Dieu, et que voilà, c'est une image de notre, de ce que nous devons faire pour nous nourrir. Alors il y a, par exemple, les poissons, il faut qu'ils aient des écailles et des nageoires. Alors,
c'est... L'anguille, ça ne marche pas, la lotte non plus.
La lotte non plus.
L'esturgeon, quand il est en période reproductrice, n'a plus d'écailles, donc ça ne marche pas.
Il y a une petite feuille sur la chaîne. Et puis, bon, les dauphins aussi, bon, ce n'est pas des poissons, mais on n'a pas le droit de les manger non plus parce que c'est de la peau. Voilà. Alors, ils disent, bon, que Philon, je ne sais plus très bien ce qu'il dit, il dit qu'avec les nageoires, on peut remonter le courant, donc ça invite. Donc à cette capacité de résistance à nos passions et puis peut-être aussi à nager à contre-courant de la masse, d'être un peu prophétique. Alors ça, c'est l'interprétation un peu allégorique. Pour le lait dans la viande, c'est ne pas faire de la peine à la mère, hein, finalement, de cuire son chevreau dans le lait. Mais c'est surtout cette séparation qu'invite le sabot fondu, c'est-à-dire que le lait, c'est ce qui fait, c'est la naissance, c'est la croissance, c'est ce qui fait nourrir, grandir et vivre. Et la viande, ben, c'est quand même le résultat d'un meurtre, et donc il ne faut pas tout mélanger. Voilà. Oui, on sait qu'il y a la mort et la vie, on sait qu'il faut, comme le dirait Ésaïe ou l'Ecclésiaste, ben, il y a un moment pour planter et puis il y a un moment pour arracher. D'accord, mais on ne mélange pas tout, si vous voulez. Et donc, c'est une séparation de l'un de l'autre. Et pour le sang, eh bien, c'est que, si vous voulez, le sang, c'est la vie. On le retrouve dans la scène, c'est vrai, hein, dans l'Eucharistie, la communion. C'est la vie. Et donc, que la vie appartient à Dieu. Donc, il y a un tabou du sang. Alors, tabou du sang qui, effectivement... est très puissant et qui date, je pense, des Cro-Magnons, malheureusement, qui fait que la femme est considérée un peu comme impure parce qu'elle saigne on ne sait pas quand, et donc c'est toujours un peu suspect à cause de ce tabou du sang. Le sang, c'est la vie, c'est sacré, et donc le profane doit être séparé du sacré, du sang, ça ne nous appartient pas, c'est voilà. Alors, il y a cette interprétation allégorique de ces règles de Kashroute. Sinon, un des avantages, c'est effectivement, ou un des inconvénients, je ne sais pas, c'est cette séparation du peuple d'Israël des autres peuples à cause de ça. Et donc, ça, ça permet finalement de ne pas être assimilé, de ne pas être mélangé, et de garder cette vocation particulière d'Israël dans les nations, d'être peuple prêtre, peuple phare, témoin de l'Éternel ou du Seigneur. Voilà.
Et les prescriptions rituelles s'étendent même jusqu'au mode d'abattage. Hein, vous savez, comme on en a beaucoup parlé pour le halal, il faut normalement inciser, enfin voilà, il faut trancher d'un seul coup l'aorte, la carotide, l'œsophage et la trachée, quoi. Hein, les quatre. Et si on rate son coup,
c'est pas bon.
C'est pas bon. Et puis, même sur les végétaux aussi, hein, il ne faut pas qu'il y ait de parasites.
Et puis, il vide vraiment le sang, contrairement à l'islam où, une fois que c'est bien sacrifié, ça va. Pour les juifs, c'est plus compliqué. Vraiment, il faut vider. Et puis, ils font tremper la viande dans de l'eau, dans du sel. Ils essayent vraiment d'extraire le sang complètement.
Et la graisse aussi, d'ailleurs.
La graisse aussi. Ouais. Donc, ils font des cuissons souvent très calcinées, sans huile, sur une plaque brute, pour vraiment calciner la graisse et le sang.
Et le nerf sciatique, je crois aussi.
Alors, ça, c'est à cause de Jacob, ça, peut-être, ouais. Non
ouais, c'est possible.
On dit, je ne sais plus. Enfin, donc, si vous voulez, je crois que ces règles alimentaires, ça invite quand même... le juif était obligé de faire tellement attention que... Il est obligé de penser à Dieu tout le temps, finalement, dans sa journée. Et ça, c'est quand même... vous voyez, c'est pas pour plaire à Dieu, mais c'est pour se rappeler de faire attention à ce qu'on mange, faire attention... et la manière dont on nourrit son être, voilà. On mange pas du cochon, parce que le cochon, ça se roule dans la boue, ça mange n'importe quoi, c'est plus ou moins carnivore, donc ça vit de violence et de manger les autres. Donc on mange pas du cochon, pour se rappeler qu'on ne doit pas vivre comme un cochon, et voilà. Donc il y a aussi cette tempérance, aussi cette attention de tous les instants, de tous les repas, de ce qu'on mange et se rappelle de cette vocation particulière qu'on a.
Ce qui est une idée assez contemporaine, l'idée que l'on est ou que l'on devient ce que l'on mange finalement, hein, quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui. J'aime bien ton idée de finalement que le génie juif est un génie d'interprétation. C'est quand même ça qui est fondamental, ce que Lévinas appelait l'entretien infini avec les textes.
Oui, oui.
La dimension rabbinique est une dimension presque ludique. Il y a un jeu. Il y a un jeu, même au sens presque spatial, c'est-à-dire qu'il y a du jeu, ça joue. Hein. Il y a toujours un espace, et puis l'interprétation ultime n'est jamais donnée. Alors, effectivement, on voit bien que c'est tout l'enjeu, peut-être pour l'islam contemporain, de s'ouvrir à cette dimension-là. Je ne suis pas complètement pessimiste, parce qu'il y a des courants, qui sont des courants herméneutiques, qui sont prêts à faire ce voyage-là. Mais de fait, chez les Juifs, c'est structurel. Ce jeu est fondamental, et c'est peut-être une des raisons de l'humour juif aussi, d'ailleurs. Parce qu'ils savent très bien qu'on n'a jamais l'énoncé définitif, la formulation ultime. Il y a toujours un peu cum grano salis, hein. Il y a le petit grain de sel, le petit sourire du rabbin qui est conscient que ce sont des réalités humaines tellement, et de manière exorbitante d'ailleurs, tellement éloignées de la sainteté de Dieu. Dans l'idée de jeu aussi, il y a l'idée d'arbitraire au fond. Et moi, ça ne me gêne pas que tout ne soit pas complètement explicable. C'est-à-dire, il y a une part de convention. Comme dans toute culture, il y a une dimension qui est fondée peut-être en nature, mais tout n'est pas fondé en nature. C'est-à-dire que tout ne s'explique pas par des règles d'hygiène ou des dégoûts culturels, etc. Il y a une dimension d'arbitraire, de convention, et qui rejoint cette notion de jeu, d'ailleurs. Et ça veut dire aussi que l'homme, pour s'humaniser, a besoin de règles qu'il se donne. Il a besoin d'une discipline extérieure, objective, que tout n'est pas fondé sur sa petite subjectivité, son petit moi qu'il dorlote, etc. Comme aujourd'hui, où on est. C'est une sortie du narcissisme aussi, au fond, de se plier à des règles communes dont on sait par ailleurs que, voilà, elles ont des fondements plus ou moins rationnels. Alors, en revanche, une fois que ceci est dit, on ne peut pas ne pas observer qu'à l'époque de Jésus, et il y avait des courants quand même ultra-orthodoxes, hein, comme aujourd'hui, des courants rigoristes, ce qu'on appelle souvent les pharisiens, c'est-à-dire les séparés dans les évangiles. C'était important d'avoir les idées claires sur les pharisiens, parce qu'on utilise aujourd'hui le mot dans plein de sens, surtout dans un sens un peu tartuffe aujourd'hui, ce qu'ils n'avaient pas. Hein, les pharisiens, ça correspondrait un peu à des courants pentecôtistes, charismatiques, des courants de renouveau, hein, qui existaient depuis à peu près 2 siècles à l'époque de Jésus. Mais de fait, ce sont quand même des courants ultra-orthodoxes pour qui la cacheroute est un marqueur identitaire, quoi. Et du coup, on voit bien que s'ils veulent vivre dans la sainteté rituelle, et ben en fait, ils sont obligés de vivre entre eux. Ils ne peuvent pas être au contact des pauvres, des petites gens, des bergers de la crèche, des publicains. Enfin, et encore, il faudrait faire la liste de tous ces gens qui existaient, tous ces artisans qui étaient au contact de l'occupant en permanence et qui finalement ne pouvaient pas vivre. Jésus lui-même, peut-être en tant que charpentier, peut-être que son père avait des clients païens. Enfin. Il y a forcément, on voit bien que Jésus est proche, hein, du courant pharisien, mais il n'appartient pas à ce monde qui est ultra communautariste, qui n'est pas tout à fait une caste au sens des Sadducéens. C'est pas vraiment une caste, ça se transmet pas de père en fils, mais quand même c'est un monde ultra communautariste, voilà. Et on voit bien que aujourd'hui c'est encore une dimension qui est présente dans le religieux. Alors, peut-être que pour le premier texte, quand même, comme c'est un texte qui n'est pas très, enfin qui est très connu, mais qui est peut-être moins souvent lu, on va prendre le temps de le lire. Alors, on est dans les Actes des Apôtres, donc on est dans le temps d'après Pâques. C'est l'épopée racontée par Luc des premiers disciples, avec donc une part quelquefois d'idéalisation, de reconstruction, etc. On a entendu ce dimanche les chrétiens n'avaient qu'un cœur, qu'une âme, etc. Donc tout ça, il y a une espèce de communisme des origines qui est assez utopique et qui est évidemment une sorte de reconstruction. Et alors, évidemment, ici, vous allez voir, donc, c'est Pierre qui se rend chez un centurion romain. Et on est dans le temps où l'Église est en train d'émerger. Donc, il y a des désaccords entre eux. C'est étonnant qu'on lise ça, d'ailleurs, entre les deux tours de l'élection. Enfin, je ne vais pas insister trop, mais c'est parce que c'était une période de crise, une période un peu révolutionnaire, quand même, même si tout le monde n'en a pas été conscient, parce que ce qui se vivait dans la communauté chrétienne n'a peut-être pas été aussi visible que la grande geste, la grande épopée lucanienne nous le laisse entendre. Mais de fait, on voit bien qu'il y a des querelles de chefs, il y a une recomposition, comme on dit, des tendances, des courants. Il y a des suspicions parce que l'épisode qui précède, c'est la conversion de Paul à Damas, sur le chemin de Damas, et Paul, après être resté à Damas, arrive à Jérusalem. Et on le regarde et on se dit, mais celui-là, il veut un poste, quoi. C'est quasiment ça. Il est parachuté, il cherche une place, et donc il n'est pas bien accueilli. Donc il faut bien voir ce jeu un peu stratégique d'une communauté humaine qui se met en place avec des tensions dont la violence n'a rien à envier à notre époque, hein. Là, les réseaux sociaux, c'était dans la rue, hein. Ça se castagne, et puis c'est assez, les affrontements sont assez virils. C'est un peu estompé, un peu édulcoré, mais enfin, on imagine que voilà, dans ce monde proche-oriental, palestinien, au soleil, ça devait chauffer quand même.
On voit Pierre avec Barnabas, non ?
Il se dispute,
il y en a un qui va à gauche, l'autre qui part à droite. Et puis avec Pierre et Paul, bien sûr.
Et dès le début, d'ailleurs. Oui.
Paul et Barnabas, oui. Et puis après, Pierre et Paul, ils vont se disputer aussi. Et voilà. Mais c'est vrai qu'avant ça, finalement... Après la Pentecôte, il continue à aller au temple, il continue à pratiquer la cacheroute, il continue à aller à la synagogue, il continue à être pratiquant, de toute façon. On voit quand même, quand il y a le procès d'Étienne, du diacre Étienne, on l'accuse quand même de remettre en cause les commandements de Moïse, quelque chose comme ça. Donc il y a quand même du libéralisme un peu dans l'air, quand même. Mais encore d'une manière, je pense... relativement, le consensus à ce moment-là, je dirais, se fait complètement dans le fait de suivre la loi juive, bien que on voit déjà à la synagogue, il y avait les craignants Dieu, parce qu'on va trouver ce mot à propos de Corneille. C'était un ensemble de personnes qui allaient à la synagogue quand même, qui étaient autour dans ces discussions, dans cette recherche de Dieu. Autour du judaïsme, mais qui n'était pas circoncis, qui ne suivait pas tous ces commandements de la cacheroute, mais qui était là pour discuter, s'intéresser à Dieu, pour cette liturgie peut-être aussi de la synagogue. Donc, ce n'était pas si étanche, il n'y avait pas juif, pas juif. Il y avait, comme tu le disais, des rigoristes, des plutôt... Et puis les bergers, par exemple, les bergers dont on parle dans la crèche... C'était des très bons juifs, mais au point de vue de l'observation de la cacheroute, évidemment, c'est difficile. Comment voulez-vous ? C'est sympa quand on est organisé dans sa maison, quand on est dans les champs, pour ne respecter la distance du Shabbat, pour tout bien faire comme il faut, allumer la bougie se laver les mains comme ça, ne pas manger ceci, manger cela, c'est pas évident, si vous voulez. Donc. Ils étaient considérés comme un peu impurs à cause de par les intégristes, par les traditionalistes, mais ils étaient plus dans le spirituel, dans la louange, il y avait tous ces courants dans le judaïsme qui cohabitaient, et puis dans le christianisme, ben mais pareil en fait dès le début évidemment, il y avait des autoritaires comme Pierre, il y en avait qui étaient plus qui étaient plus spirituels, il y en a qui étaient charismatiques, hein. Il y en a, on voit avec Paul, ils disent, mais ils n'ont pas entendu parler du baptême d'esprit, ils connaissent que le baptême d'eau. Donc il y avait des charismatiques qui étaient pour une expérience spirituelle, un peu une transe, j'allais dire presque, c'est ce qu'on va voir un peu ici. D'autres étaient plus, j'allais dire, dans une autre façon de considérer le Christ.
Puis il y a une religion urbaine, et puis il y a les périphéries, quoi. Sans faire d'analogie avec la situation sociologique française, mais enfin c'est ça, il y avait une espèce de... Les Parisiens, c'est un peu cette... Ouais. Sans parler de la bourgeoisie hors sol dont on nous parle les journalistes, mais enfin il y a un peu ça, c'est un monde assez... Qui peut se permettre de vivre le judaïsme complètement parce qu'ils ont les possibilités matérielles de le faire. Et puis, il y a tous les autres, tous les laissés pour compte, tous les, voilà, les pauvres gens. Et d'ailleurs, l'Évangile les fait émerger. Hein, c'est, voilà.
Alors là, les centurions, cet homme craignant Dieu, donc c'est sûr que c'est quand même pas tout à fait cachère comme fréquentation. Parce que le centurion, il vit de violence, il verse le sang, forcément. Au point de vue du monothéisme, il adore, bon, évidemment, il s'intéresse à Dieu, au Dieu d'Israël. Voilà, il s'intéresse aux discussions rabbiniques, mais il adore aussi l'empereur comme son Dieu. Donc c'est un peu limite au point de vue, j'allais dire, de la piété quotidienne. Et puis, évidemment, il ne suit pas les règles alimentaires, donc il n'est pas fréquentable, normalement. Donc, qu'est-ce qu'il va nous lire, ce texte? Alors, peut-être qu'on peut changer au chapitre, non? Au paragraphe, si on veut.
Oui, parce que c'est un peu long.
C'est un peu long, donc on peut faire... Mais il y a les sortes de titres rajoutés dans l'édition, peut-être qu'ils coupent un petit péricope. Des volontaires de la lecture. D'accord, merci.
Alors, acte chapitre 10, la vision de Corneille à Césarée. Il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centurion à la cohorte, appelé l'Italique. Dans sa piété et sa crainte envers Dieu, que toute sa maison partageait, il comblait de largesse le peuple juif et invoquait Dieu en tout temps. Un jour, vers 3 heures de l'après-midi, il vit distinctement en vision un ange de Dieu entrer chez lui et l'interpeller. Corneille. Corneille le fixa du regard et de crainte, il répondit, « Qui est-il, Seigneur ? Tes prières et tes largesses se sont dressées en mémorial devant Dieu, et maintenant envoie des hommes à Joppé pour en faire venir un certain Simon, qu'on surnomme Pierre. Il est l'hôte d'un autre Simon, corroyeur, qui habite une maison au bord de la mer. Dès que fut disparu l'ange qui venait de lui parler, Corneille appela 2 des gens de sa maison, ainsi qu'un soldat d'une grande piété, depuis longtemps sous ses ordres. Il leur donna tous les renseignements voulus et les envoya à Joppé.
On peut peut-être faire une petite pause. Joppé, donc c'est Jaffa, hein, c'est au bord de la mer. Donc vous avez ce centurion, c'est un officier supérieur. On pense un peu au centurion de l'évangile de Luc. Vous savez, celui qui demande que le Christ intercède pour son esclave, son serviteur, peut-être plus que ça d'ailleurs, parce que beaucoup d'officiers vivaient un peu à la grecque. Passez-moi l'euphémisme. Et donc, il y a des points communs. Parce que dans l'évangile, on dit que le centurion était bon pour la synagogue, qu'il comblait aussi de ses largesses. Ici, c'est le cas. Donc, ça prouve qu'il y avait une élite romaine, païenne, qui était, alors, comme l'a dit Marc, hein, on les appelle les craignants Dieu, qu'il faut distinguer des prosélytes. Les prosélytes, c'était autre chose. C'était des païens qui acceptaient d'aller jusqu'à la circoncision. Pour les hommes adultes, c'est pas simple à accepter, hein. Voilà. Mais enfin, vous voyez, il y avait tout ce monde. Le judaïsme, à l'époque, était prosélyte encore. Il ne l'est plus, hein. Il a une culture de minorité. Il avait moins cette culture de minorité. Il y avait des passerelles qui existaient avec le monde païen. C'est pas facile à comprendre, tout ça, parce que c'est un monde très... C'est le monde qu'a connu Jésus. C'est un monde de mélange, un monde très, très métissé, finalement, très, 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 très complexe, très effervescent aussi. Donc il a une apparition, une vision. Je ne sais pas trop ce que ça signifie, mais enfin, en tout cas, le narrateur nous dit qu'il a une vision, qu'il lui demande de faire venir Simon-Pierre chez lui. Voilà, Simon-Pierre qui réside chez un artisan du cuir, là, un corroyeur.
Alors, tel qu'il est décrit, moi je trouve que ça va quand même déjà en filigrane, si vous voulez. Il y a quand même l'idée qu'il est assez avancé, parce qu'on dit, si vous voulez, le triple ministère christique, c'est effectivement c'est les serviteurs de Dieu qui sont dans l'Ancien Testament, dans le Premier Testament, qui reçoivent l'onction. Donc il y a les prêtres, les prophètes et les rois. Et là, en fait, il a déjà un peu ce triple ministère, si vous voulez, parce qu'il invoquait Dieu en tout temps, c'est le ministère de prêtre qui est digne, qui est préparé et dont la vocation est de faire, d'invoquer Dieu, de faire monter sa prière à Dieu, de faire monter la prière du monde, la prière des humains vers Dieu. Alors ça peut être avec des sacrifices, donc avec de la fumée, des holocaustes ou de l'encens ou des chants, mais c'est le ministère de prêtre. Avoir une vision, en plus c'est pas une vague vision, l'image est bien nette d'un ange de Dieu qui vient, c'est prophétique. Mmh. Il reçoit un ange, c'est une expérience mystique, ça veut dire, en français courant, si je puis dire. C'est une conscience de quelque chose qui vient de Dieu. Nous on pourrait parler aussi bien d'Esprit Saint, ou on pourrait parler de quelque chose qu'on pourrait discerner dans la prière. Donc ça, le ministère prophétique est comblé de largesse le peuple juif. Pierre va le répéter après, c'est un ministère royal, c'est-à-dire qu'il a la vocation de faire du bien, d'agir dans le monde pour la justice, pour la paix, pour construire, pour bâtir. Et donc déjà, mais sans le savoir finalement, il est déjà un peu chrétien. Parce que le propre du Christ, c'est de faire que chacune et chacun est Christ, avec un minuscule, c'est-à-dire pour ceux qui lui sont confiés, à sa mesure, à sa façon, et lors du baptême, c'est rappelé aussi bien le baptême selon le rite catholique que selon le rite protestant, on est fait prêtre, prophète et roi. Voilà, alors... Moi, je regrette un peu qu'il n'y ait pas l'onction d'huile au cours du baptême protestant. C'est dans l'Église catholique, c'est pratiqué, comme à la confirmation, non ? Je trouve que c'est assez beau, voilà, d'avoir ce geste qui dit que nous sommes oints d'huile, nous sommes faits Christ pour être prêtre, prophète et roi. Mais alors, lui, c'est sans l'onction d'huile, mais c'est par sa conscience, par sa recherche de Dieu, par... un peu naturellement finalement, et puis par Dieu qui le rejoint finalement à cette occasion-là.
Alors la suite pour la vision quand même, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que c'est juste une manière de sacrifier un genre littéraire qui est celui des apparitions bibliques, etc.? Parce qu'en même temps, tout à l'heure, j'ai peut-être été un peu désinvolte dans ma manière d'en parler ou d'évacuer le problème. En fait, c'est magnifique, d'une certaine manière, être investi par une présence qui n'est pas la présence justement de son ego, mais de quelqu'un d'autre. Mmh. C'est ça, une apparition. C'est qu'on a la certitude que ce que l'on vit, ce que l'on éprouve, ce que l'on expérimente ne vient pas de soi. Ne vient pas uniquement de son petit cinéma intérieur, mais que précisément, il y a quelque chose là qui se dévoile, qui se révèle. Alors, après, d'ailleurs, il décrit l'apparition comme d'un homme en vêtements blancs. Donc, c'est assez pascal aussi. Il y a une réminiscence des récits du matin de Pâques, de l'apparition aux saintes femmes. Donc là, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu une réécriture de
une expérience mystique.
Oui, oui.
Et en fait... on a la chance d'avoir en ce moment pas mal de personnes qui se convertissent venant de l'athéisme complet, en fait. Et je dirais la moitié, c'est parce qu'ils ont senti quelque chose comme ce que tu décrivais. Alors ils osent en général pas le dire, encore moins à leur famille athée, de peur qu'on leur dise oui, et les bonhommes verts, les éléphants roses, tu les vois souvent. Mais en fait, ils sont un peu gênés finalement de ça, mais en fait, c'est pas du tout. C'est quelque chose qui est quand même plus fréquent et plus répandu qu'il ne semble. Et oui, on peut sentir la présence de Dieu, même chez les plus grands mystiques, ça ne sera pas sans arrêt tout le temps, ça peut être plus régulier chez certains, mais je dirais la plupart du temps, c'est plutôt comme Paul, c'est plutôt exceptionnel, mais très marquant. Et donc, moi, je connais quand même beaucoup de personnes qui, étant complètement athées, on leur a toujours dit que tout ça, c'était des conneries, eh bien, comme tu disais exactement, ont senti quelque chose, un amour qui les garde, quelque chose de plus grand, et après, ils disent, mais il n'y a aucun doute, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance. Et ce n'est pas du tout des gens qui repeignent le plafond, ou des gens tout à fait équilibrés, normaux, et ils ne vivent pas ça tous les lundis matins. C'est plutôt rare et très précieux. Je pense que c'est quelque chose que de cet ordre-là, il n'y a rien de si exceptionnel que ça. Alors ceux qui ne vivent pas quelque chose de cet ordre-là, ça peut être plus diffus, quelque chose qui est dans notre conscience, s'est enrichi sans qu'on sente trop que ça nous vienne de quelque part, mais qui fait quand même qu'on est plus vivant, plus espérant et plus aimant après. Donc on peut dire par déduction qu'il y a eu parole de Dieu, puisqu'il y a eu du vivant en plus finalement, ou une qualité de vie et d'être en plus. Donc moi je dirais que c'est le signe qu'il y a eu quelque chose qui est de l'ordre de la source d'évolution, de création, de vie, donc bref, de Dieu, pour en parler avec le nom qu'on utilise en général dans la langue française, mais qui est effectivement plus compliqué que ce qu'on peut imaginer avec ce mot Dieu. Alors évidemment, c'est raconté avec des visions, avec une nappe qui descend, etc. Moi, en général, je dirais qu'il faut beaucoup se méfier.
C'est après ça, la nappe qui descend.
C'est après, oui.
On n'a pas encore, oui.
On n'a pas, faut déplorer un peu le sujet.
La nappe qui descend, c'est après. Là, on était
dans... C'est après. Mais, oui, mais quand même, la vision d'un ange entré. Alors, on imagine une bête avec des plumes, ou tout blanc, et puis... oui, bon, c'est une façon de parler, si vous voulez, à mon avis. C'est une façon de parler. Si vraiment on voit des choses comme ça, c'est un peu effrayant. Et je ne suis pas complètement sûr que ça vienne de Dieu, ou de rêve, ou de... d'imagination, ou de blessures anciennes, d'espérances diffuses, enfin je ne sais pas quoi.
Il y a la conscience d'une relation personnelle, parce qu'il dit « qu'y a-t-il Seigneur ?» Seigneur, ce n'est pas forcément Dieu d'ailleurs, mais ça peut être une marque de déférence. Hein.
Là, c'est ange de Dieu, puis appelé Corneille, c'est en général, bon, ce serait Corneille, ce serait encore plus fort, souvent c'est deux fois le nom. Quand on est appelé pour être nommé serviteur de Dieu, là c'est une fois, mais quand même appelé par son nom.
Bon, c'est une vocation.
Oui, et puis bon, c'est les stéréotypes. Hein. On est appelé par son nom, on est saisi de crainte. Bon, il n'y a pas le n'ayez pas peur qu'on trouve là souvent, et puis on reçoit une mission. C'est un récit de vocation très classique. Il y a un code littéraire, il y a un genre littéraire de la vocation, de la théophanie. C'est-à-dire de l'apparition divine pour la vocation d'un personnage, et bon, là, beaucoup de ces codes est présent ici. Il manquerait le « me voici ». Le « me voici », il y est plus loin. Hein. C'est Pierre qui dit « me voici », mais c'est aux personnes qui viennent le chercher. Mais là, pour le code complet, il manquerait le « n'ayez pas peur », le « me voici ». Mais non, je ne peux pas faire ça parce que j'en suis pas capable. Et puis finalement, le Seigneur dit, mais si, tu en seras capable parce que je vais t'accompagner. Et puis voilà, mais si vous voulez, il y a presque, aux trois quarts, le code classique du genre littéraire de la théophanie pour une vocation d'un serviteur de Dieu. Donc à mon avis, oui, c'est comme tu le dis, c'est un genre littéraire. Et nous, on n'est pas forcé pour valider notre vocation d'avoir tous ces codes. C'est vécu d'une manière intime, intérieure, et même la voix divine, je ne crois pas, moi, que personnellement, je ne pense pas que Dieu parle comme ça. Ça peut arriver, qu'on ait cette impression, qu'on ait ce sentiment que Dieu nous a indiqué ça. Mais ça demande beaucoup de prudence avant de mettre ça sur le dos de Dieu, parce que il y a plein des voix qui s'expriment en nous quand même. Il n'y a pas que celle de Dieu des fois. Hein. Mais bon.
On enchaîne avec la suite.
Quelqu'un d'autre peut-être, ou Guillaume aussi.
Le lendemain, tandis que, poursuivant leur route, ils se rapprochaient de la ville, Pierre était monté sur la terrasse de la maison pour prier. Il était à peu près midi. Mais la faim le prit et il voulut manger. On lui préparait un repas quand une extase le surprit. Il contemple le ciel ouvert. Il en descendait un objet indéfinissable, une sorte de toile immense qui, par quatre points, venait se poser sur la terre. Et à l'intérieur, il y avait tous les animaux quadrupèdes, et ceux qui rampent sur la terre, et ceux qui volent dans le ciel. Une voix s'adressa à lui. « Allez, Pierre, tue et mange. »« Jamais, Seigneur, » répondit Pierre, « car de ma vie, je n'ai rien mangé d'immonde ni d'impur. » Et de nouveau, une voix s'adressa à lui pour la seconde fois. « Ce que Dieu a rendu pur, tu ne vas pas, toi, le déclarer immonde. » Cela se produisit trois fois, et l'objet fut aussitôt relevé dans le ciel. Pierre essayait en vain de s'expliquer à lui-même ce que pouvait bien signifier la vision qu'il venait d'avoir. Quand justement, les envoyés de Corneille, qui avaient demandé ça et là à la maison de Simon, se présentèrent au portail. Ils se mirent à crier pour s'assurer que Simon, surnommé Pierre, était bien l'hôte de cette maison. Pierre était toujours préoccupé de sa vision, mais l'esprit lui dit « Voici deux hommes qui te cherchent. Descends donc tout de suite et prends la route avec eux sans te faire aucun scrupule, car c'est moi qui les envoie. » Pierre descendit rejoindre ces gens. « Me voici, leur dit-il. Je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison de votre visite ?» Ils répondirent, c'est le centurion Corneille, un homme juste qui craint Dieu et dont la réputation est bonne parmi la population juive tout entière. Un ange saint lui a révélé qu'il devait te faire venir dans sa maison pour t'écouter et exposer des événements. Pierre les fit alors rentrer et leur offrit l'hospitalité. Le lendemain même, il partit avec eux, accompagné par quelques frères de Joppé, et le surlendemain, ils arrivaient à Césarée. Corneille, de son côté, les attendait. Il avait convoqué sa parenté et ses amis intimes. Au moment où Pierre arriva, Corneille vint à sa rencontre et il tomba à ses pieds pour lui rendre hommage. « Lève-toi, lui dit Pierre. » Il l'aida à se relever. « Moi aussi, je ne suis qu'un homme. » Et tout en conversant avec lui, il entra. Découvrant alors de nombreuses assistances, il déclara, comme vous le savez, c'est un crime pour les Juifs que d'avoir des relations suivies ou même avec un étranger. Mais à moi, Dieu vient de me faire comprendre qu'il ne fallait déclarer immonde ou impur aucun homme. Voilà pourquoi c'est sans aucune réticence que je suis venu quand tu m'as fait la demande. Mais maintenant, j'aimerais savoir pour quelle raison vous m'avez fait venir. Et Corneille le répondit. Il y a trois jours, juste en ce moment, à 3 heures de l'après-midi, j'étais en prière dans ma maison. Soudain, un personnage aux vêtements splendides se présenta devant moi et me déclare. Ta prière a trouvé audience, Corneille, et de tes largesses, la mémoire est présente devant Dieu. Envoie donc quelqu'un à Joppé pour inviter Simon, mon surnom Pierre, à venir ici. Il est l'hôte de la maison de Simon, le corroyeur, au bord de la mer. Sur l'heure, je l'ai donc envoyé le chercher et tu as été assez aimable pour nous rejoindre. Maintenant, nous voici tous devant toi pour écouter tout ce que le Seigneur t'a chargé de nous dire.
Merci Guillaume, on va peut-être faire une petite pause là. Ce qui me frappe, moi, à la relecture, parce que c'est des textes qu'on connaît, mais pas tant que ça non plus, en même temps, parce qu'on ne les lit pas si souvent que ça, même si c'est un texte très fondamental. Quand on pense que c'est le même écrivain, c'est le même Luc ou l'école lucanienne qui a écrit l'évangile de Luc et donc les évangiles de l'enfance, tout ce qu'on entend à Noël, en fait, parce qu'on entend la voix. Hein, quand on dit « ta prière a trouvé audience », on entend Gabriel, hein, « tu as trouvé grâce auprès du Seigneur, et voici que l'enfant que tu vas concevoir vient du Très-Haut ». C'est très bouleversant, on entend même la vision de Zacharie, et puis évidemment on entend le centurion qui, quand il s'avance, il sort de sa maison à la rencontre de Pierre, on pense à Élisabeth, hein, qui va à la rencontre de Marie dans la visitation. On réentend, alors que les textes de l'évangile de l'enfance, on les connaît par cœur parce qu'on les entend sans cesse. Et au fond, pour celui qui a écrit ces textes-là, je pense que lui, ce qu'il souhaitait, c'est qu'on les lise à parité. Il n'a jamais pensé qu'il y aurait un best-of de ces textes qui privilégierait le récit des origines au détriment de ces passages-là. Pour lui, c'est des passages aussi importants. Et je pense qu'il faudrait prendre la décision de les lire peut-être avec la même ferveur, la même poésie. Là aussi, quand il sort dehors, là, comme Élisabeth, on pense au centurion romain. D'ailleurs, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Et il est conscient que ça ne se fait pas, que ce n'est pas politiquement correct d'entrer, pour un juif, d'entrer sous le toit d'un païen. Vous savez que ça posait, au moment du procès de Jésus, ça posait problème, puisque les prêtres n'ont pas pu entrer au tribunal de Pilate, au prétoire. Donc là, on sent quand même tout le poids d'une culture, tout le poids, pas seulement des préjugés, mais le poids des convenances, des bienséances, des règles, des observances. On voit bien le choc des cultures. Et que tout l'enjeu des actes, d'ailleurs, ça va être d'unifier ces deux cultures, la culture gréco-romaine, païenne, et puis la culture hébraïque. Et alors, l'acteur qui est sans cesse cité, c'est l'esprit, hein, comme dans l'évangile de Luc. Et il n'y a que dans l'évangile de Luc et dans les actes des apôtres, puisque c'est un seul livre, hein, c'est un diptyque, l'évangile et les actes. L'évangile, c'est le même écrivain, c'est la même plume, c'est le même vocabulaire, c'est le même style, etc. Et vous avez toujours l'esprit. L'esprit poussa Jésus au désert, l'esprit qui est là au baptême, etc. Et là, l'esprit qui dit à Pierre qu'il faut qu'il réponde à l'invitation, etc. Donc, il y a toujours cette poussée. C'est des textes qui ne sont pas statiques. Il y a toujours ce dynamisme de l'esprit. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça permet de ne pas rendre le texte trop merveilleux. Parce qu'il y a quand même des extases, des apparitions, tout ça, on est un peu gêné. Mais on sent bien que c'est autre chose. Parce qu'en même temps, le texte est super incarné. On nous parle d'un corroyeur, c'est-à-dire un artisan du cuir. On nous parle d'un militaire. On nous parle de la famille, des esclaves, des serviteurs. Et en même temps, il y a l'esprit qui façonne tout ça et qui va faire de ces deux cultures une seule, finalement. Catholique, apostolique.
Peut-être pas romaine, mais ça, c'est autre chose.
Voilà, tu vois, j'ai vu mon tact.
Oui. Alors, on disait qu'effectivement, la règle de la cache-route, ça servait à faire cette coupure. D'ailleurs, on en parle, hein, là, voilà. C'est la règle de la cache-route fait une coupure, fait qu'on n'a pas le droit de côtoyer des non-juifs pour que cette vocation soit gardée. Et puis que la vocation de la cache-route aussi, de faire donc une pédagogie de la sainteté, de la vocation, et puis de vocation personnelle, mise à part des autres. Voilà. Mais ici, finalement, c'est l'esprit, effectivement, qui tient ce rôle direct, qui remplace la cache-route, finalement, pour cette pédagogie. C'est une pédagogie directement de Dieu, directement dans la personne, parce que le « me voici » dont je parlais, hein, Pierre reçoit rejoindre ces gens, « me voici », leur dit-il, « car je suis celui que vous cherchez », ça, c'est comment dire, c'est un clignotant rouge, le me voici, on l'a, c'est le inéni hébreu, oui, si oui, vous voulez, qui est si important, le me voici d'Abraham, de tous ces grands serviteurs. Donc là, cette prise en compte de la vocation, c'est à travers la révélation directe, l'esprit, à travers que ça se fait. Et ça ne se fait pas dans la séparation.
Oui. Voilà. Mais c'est vrai que la présence de l'esprit qui unifie. Parce qu'au fond, sans l'esprit, c'est un rassemblement sectaire. Sans l'esprit, l'évangile de Pierre, c'est des slogans. C'est une doctrine vide, c'est de l'idéologie. Sans l'esprit, leur moment de révélation spirituelle, c'est du délire. C'est ça qui est étonnant. C'est que l'esprit transforme, en fait. L'esprit va transformer ce qui pourrait être une propagande minable en témoignage de vie. L'esprit transforme le rassemblement, qui pourrait être juste un truc partisan et assez bête, en expérience ecclésiale, justement. Au fond, c'est l'esprit qui transforme tout. Je me souviens d'avoir prêché une Pentecôte un jour dans ce sens-là. C'est l'esprit qui donne vie. Sans l'esprit, tout devient organisation humaine, et c'est toujours le risque d'une église. Si elle n'a plus l'esprit, si elle perd l'esprit, si elle perd le contact avec le souffle, elle devient juste un truc sans intérêt, quoi.
Et puis c'est le problème de cette liberté. À partir du moment où Dieu s'adresse à chaque personne individuelle, à un Corneille, à un Pierre, et que l'esprit est donné à chacun à la Pentecôte. Mais où va le monde ? C'est-à-dire que tu vois, t'as plus les commandements alimentaires, voilà, tout le monde va faire ceci, et c'est le tout le monde qui fait ceci, un peu la même règle, le même machin. Du coup, ça crée un peuple, effectivement, ouais. Au lieu de se diluer. Mais là, ce qui rassemble, au lieu de se diluer, ce qui rassemble des personnes qui sont dans cette liberté, dans cette relation directe avec Dieu, il n'y a que l'esprit qui peut faire l'union.
Ah ouais.
Sinon, c'est du chaos. Sinon, ça va être un bruissement
une réunion syndicale. Enfin, ça va devenir un truc.
Une réunion syndicale ou un chaos de personnes qui en fait chacun à sa tête. Ouais. Dis-moi, j'ai une révélation qu'il fallait repeindre la salle des chanteurs à vert à pois rose. Et puis, alors, ça va être peint comme ça. Le lendemain, dit, mais moi, j'ai la révélation, il faut le peindre bleu à rayures vertes. Et on va le repeindre en bleu à rayures vertes.
J'ai la révélation d'être le chef, parce que c'est ça aussi.
Voilà.
Parce qu'en fait, on voit bien que là, comment s'organise la distribution du pouvoir, de l'autorité ? C'est précisément parce qu'ils sont envoyés. Ils sont apôtres. Et Paul, son statut d'apôtre, lui a été d'ailleurs contesté. Il le dit dans l'Épître aux Corinthiens, il dit on conteste le fait que j'ai été envoyé. Parce que les autres disent, nous on a été envoyés, puisqu'on a connu Jésus, donc il nous a envoyés. Mais toi, tu t'es envoyé toi-même, tu t'es auto-proclamé envoyé. Et donc il va falloir qu'il témoigne de l'expérience qu'il a vécue sur le chemin de Damas pour dire que lui aussi est apôtre. D'ailleurs, l'Église reconnaît Paul comme apôtre. Puisqu'il est fêté en même temps que Pierre, d'ailleurs.
Mais il le justifie.
Apôtre, ça veut dire envoyé, hein, c'est tout.
Il le justifie par l'efficacité de. C'est-à-dire qu'il ne vient pas directement après le chemin de Damas, il ne va pas directement à Jérusalem en disant coucou, j'ai une révélation.
Ouais.
Il va déjà 3 ans, je crois, on ne sait pas trop où, à méditer. Et puis ensuite, il va travailler à évangéliser donc dans son coin et puis avec finalement ce curriculum vitae, et c'est là qu'il va rejoindre Jérusalem, et qu'ils vont dire, visiblement, vu le succès extraordinaire de ton témoignage, c'est la preuve que le Seigneur t'a effectivement envoyé. Alors sinon, je parlais de la bestiole qui a un sabot fendu et qui rumine, donc qui discerne et qui rumine, c'est ce que fait Pierre, de discerner et de ruminer. Il essayait en vain de s'expliquer lui-même ce que ça pouvait signifier, et il rumine ça, et il le retravaille en disant, mais est-ce que ça vient de Dieu, est-ce que ça ne vient pas de Dieu, est-ce que ça reçoit, voilà, est-ce que c'est... Et donc il y a ce travail, finalement, du sabot fendu et de la rumination, qui est vécu là par Pierre, pour reprendre finalement c'est son expérience spirituelle comme une nourriture pour ce qui va devenir.
Alors, il faut quand même qu'on sache comment ça se termine. Marc-Christine, tu veux bien ? Oh, t'as pas les bonnes lunettes ? Anne ou... Ok.
Le discours de Pierre chez Corneille. Alors, Pierre ouvrit la bouche et dit : « Je me rends compte en vérité que Dieu est impartial et qu'en toute nation, quiconque le craint et pratique la justice trouve accueil auprès de lui. Son message, il l'a envoyé aux Israélites. La bonne nouvelle de paix par Jésus-Christ, lui qui est le Seigneur de tous les hommes. » Vous le savez, l'événement a gagné la Judée entière. Il a commencé par la Galilée, après le baptême que proclamait Jean. Ce Jésus, issu de Nazareth, vous savez comment Dieu lui a conféré l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Il est passé partout en bienfaiteur. Il guérissait tous ceux que le diable tenait asservis, car Dieu était avec lui. Et nous autres sommes témoins de toute son œuvre sur le territoire des Juifs, comme à Jérusalem. Lui qu'ils ont supprimé en le pendant au bois, Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il lui a donné de manifester sa présence, non pas au peuple en général, mais bien à des témoins nommés d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé avec lui et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Enfin, il nous a prescrit de proclamer au peuple et de porter ce témoignage. C'est lui que Dieu a désigné comme juge des vivants et des morts. C'est à lui que tous les prophètes rendent le témoignage que voici. Le pardon des péchés est accordé par son nom à quiconque met en lui sa foi.
Alors, donc là on a une proclamation, une profession de foi de Pierre, comme on en a l'habitude, d'ailleurs on les entend actuellement dimanche après dimanche. C'est le kérigme, hein. Le kérigme, c'est-à-dire le cœur de la foi chrétienne, le cœur du credo, hein. C'est l'ADN du chrétien. Le Christ est mort et ressuscité et il envoie son esprit pour que nous prenions la relève. Donc on a là l'expression du kérigme de la foi, c'est une catéchèse et c'est même une catéchèse baptismale. Au fond, les gens qui sont là dans cette maison, on imagine la scène, ils sont comme nous là, ils vivent un catéchuménat. Et de fait, on va le voir, ils vont vivre ça de manière assez charismatique, ils vont vivre l'effusion de l'esprit, et donc ils peuvent être plongés dans le salut de Christ, ils peuvent être baptisés. Et je crois que, puisque l'esclave de la reine d'Éthiopie, c'est après le baptême que fait Philippe, il me semble que Corneille est donc le premier baptême païen. Parce que vous avez aussi l'eunuque, vous savez, de la reine d'Éthiopie, qui se balade sur son char, qui rencontre Philippe, l'apôtre Philippe. Il me semble que c'est forcément après, puisque Corneille est le premier. Donc c'est intéressant quand même, parce qu'il a bien fallu à un moment...
C'est en 8. Hein.
C'est en 8 ?
Au chapitre 8, oui.
Ah oui, donc l'eunuque est le premier, parce qu'il reçoit le baptême aussi. Mm. Alors Corneille est peut-être le premier à le recevoir avec sa maisonnée.
Oui. Oui, donc il baptisait tout le monde. Hein. Baptisait
c'est les premiers
cas. Les enfants, les serviteurs.
Oui.
C'est-à-dire que le maître de... Alors là encore, c'est... Là, l'esprit tombe sur tout le monde, non ? Si j'ai bien compris.
Enfin, il faut lire la... Voilà. Anne, si vous voulez bien, juste la suite.
La venue de l'esprit sur les païens. Pierre exposait encore ces événements quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui étaient en train d'écouter la parole. Ce fut de la stupeur parmi les croyants circoncis qui avaient accompagné Pierre. Ainsi, jusque sur les nations païennes, le don de l'Esprit Saint était maintenant répandu. Ils entendaient ces gens, en effet, parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Pierre reprit alors la parole. Quelqu'un pourrait-il empêcher de baptiser par l'eau ces gens qui, tout comme nous, ont reçu l'Esprit Saint ? Il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ et ils lui demandèrent alors de rester encore quelques jours.
Oui.
Alors cela dit, il ne devrait pas être si étonné que ça, si ce n'est que ça, ça signe tout à fait le fait que Jésus est le Christ, en fait. Bien plus sûrement, que, parce que Pierre dit, il a reçu l'onction d'Esprit Saint et de puissance, que Jésus ait reçu l'onction d'Esprit Saint, à la limite, si vraiment on a vu le pigeon lui descendre sur la tête et tout bien, on peut se dire, ça me convainc relativement. Mais là, qu'effectivement les nations reçoivent l'Esprit Saint, c'est le signe que les promesses faites aux grands prophètes, que tout le monde de toutes les nations sera directement enseigné par Dieu, et deviendra prophète, et que plus personne n'aura à enseigner quelqu'un d'autre en lui disant « connais l'Éternel ». C'est les promesses qu'on voit en plusieurs reprises chez les grands prophètes. C'est le temps messianique. Donc c'est tout à fait normal, ça fait partie de l'attente messianique et de la réalisation qu'on attend, que nous soyons tous prophètes par l'Esprit. Alors, le parler en langue dont on parle ici, c'est difficile de savoir exactement, parce que à la Pentecôte, se parler en langue, chacun parle dans sa langue maternelle et les autres l'entendent dans leur propre langue maternelle. C'est donc une sorte de langue universelle, finalement. Cette langue universelle, j'allais dire, c'est celle, ça peut être celle du cœur, c'est celle qui fait que des enfants qui ne parlent pas la même langue, des enfants de 3 ans, de 5 ans, vous les mettez, ils jouent ensemble et ils se comprennent même s'ils ne parlent pas la même langue. Et c'est ce qui peut arriver entre nous, vraiment par le cœur. Ce n'est pas la langue incompréhensible dont parle Paul plus loin, qui est l'inverse finalement, qui est la langue plutôt de Babel que de Pentecôte, où il y a des gens qui parlent sous une sorte de transe et qui ne sont compris par plus personne. C'est l'inverse du parler de la Pentecôte. Là, manifestement, ils parlent en langue, mais ils célèbrent la grandeur de Dieu, donc peut-être que c'est quelque chose qu'on comprend. Ils deviennent prophètes, ils deviennent porteurs d'une parole, c'est ce qui était attendu et c'est ce qui, à mon avis, se réalise ici. Ils sont capables d'être prophètes et d'un prophétisme qui transcende les langues, les nations et les sexes.
On peut comprendre d'ailleurs cette Pentecôte, la grandeur de Dieu, on peut imaginer. Oui. Dieu est grand, Allahu Akbar, c'est ça finalement. Moi, si j'entends quelqu'un dire Allahu Akbar, peut-être que dans le contexte actuel,
je me cache sous la table, mais.
Oui, mais en tout cas, je comprends normalement ce que ça veut dire. Et en soi, la phrase est tout à fait louable d'ailleurs. Mais donc, oui, on peut imaginer que dans ce creuset de civilisation et de langues sémitiques, ils comprennent, ils voient de quoi il s'agit. Comme on dit, il n'y a pas de mots, quoi. Donc, je ne veux pas absolument réduire et raplatir les expériences pentecôtistes, mais je pense que il y a une communion, il y a une ferveur, un peu comme dans un concert de rock, et puis tout le monde parle la même langue.
Sauf qu'il faut qu'il soit un peu prophète pour que s'accomplisse la promesse messianique.
Oui, de la connaissance,
en fait. De la connaissance de Dieu.
Ouais.
Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il les baptise au nom de Jésus-Christ. Or, on sait qu'à la fin de l'évangile, selon Matthieu, il y a marqué « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ».
Mais l'Esprit est là, c'est pour ça que...
On sait bien que, si Jésus avait dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », tout bien à l'ascension, imaginez bien que Pierre ne va pas le baptiser au nom de Jésus-Christ ensuite. Il l'aurait baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On sait bien que ces formules trines, pas encore trinitaires, mais trines déjà, ont été rajoutées un peu après, et qu'au début, il baptisait au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus, au nom de Jésus-Christ. En fait, tous les baptêmes qu'on a dans ces premiers temps sont faits en ce nom-là, en fait. Alors, c'est devenu après, et c'est un développement. On comprend bien ce que ça veut dire, et on est complètement d'accord. Chez nous, les baptêmes sont toujours faits au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un développement, finalement, de une paraphrase explicative de ce que ça veut dire.
Il y a quelques églises protestantes qui font le baptême de Jésus-Christ au foyer de l'âme, je crois qu'ils le font.
Je pense pas, parce que chez nous, vraiment, dans notre église, on fait très attention à cause des accords œcuméniques, que ça soit fait. Et dans nos registres, on n'a pas le droit, c'est vraiment obligatoire. Après, il peut y avoir... moi, je ne connais aucun pasteur qui ferait autrement. Mais dans des églises, peut-être... fondamentalistes qui vont reprendre, mais qui seraient fondamentalistes pour ce verset-là plutôt que sur la finale de Matthieu, c'est un peu étonnant quand même. Mais je ne sais pas, hein, il peut arriver plein de choses.
En tout cas, vous voyez que notre métaphore alimentaire, elle apparaît donc au cœur du texte, et tous ces textes ont une structure un peu concentrique, donc c'est très important. C'est la vision de Pierre. Pierre qui voit finalement des aliments, il voit un drap avec, je ne sais pas quoi, des homards, des... On peut imaginer tout ça, ça c'est le breton qui rêve, mais, parce que normalement le homard c'est tout à fait non cachère. Hein. Mais donc on lui dit tue et mange. C'est quand même violent d'ailleurs, il faut tuer. Hein. Moi j'ai jamais tué pour manger, je sais que mes grands-parents le faisaient, mais j'ai vu faire. Mais ça, c'est vrai qu'on s'éloigne aussi de ces réalités-là. En tout cas là c'est encore ce monde, c'est un pêcheur, on lui dit tue et mange. Donc il prend conscience, après avoir ruminé, que cette métaphore alimentaire, c'est pour vous dire la puissance de l'alimentation, quand même, hein, et de la nourriture. Parce que nous, ça nous ferait peut-être rire. Nous, les images alimentaires, ça nous fait toujours rire. Je ne sais pas pourquoi. Parce que, je ne sais pas, c'est... On a tellement privilégié dans la culture classique française l'ouïe et la vue, hein, comme dans le théâtre de Racine, que tout ce qui est de l'odorat, du goût, tout ça, c'est considéré comme moins noble, moins bien séant, mais en tout cas là c'est pas le cas, et c'est grâce à cette vision qu'il comprend qu'il doit baptiser Corneille et toute sa famille.
Et donc l'alimentation est remplacée par l'esprit directement, je pense, pratiquement.
Oui, alors il y a, et puis on n'aura pas le temps de tout faire, mais il y a un autre il y a ce passage fondamental bien sûr de Corinthiens 10. À vrai dire on a mis que ce passage là, mais dans toute l'épître aux Corinthiens il y a toute une réflexion, effectivement, sur la nourriture. Alors, ce n'est plus tellement sur la cache-route, c'est sur les nourritures sacrifiées aux idoles. Donc, ce n'est plus tellement le positionnement par rapport à la loi hébraïque, mais c'est le positionnement par rapport à ce qu'on appelait les idolotites, c'est-à-dire les viandes qui étaient sacrifiées dans les temples païens. Il ne faut pas oublier que nos ancêtres, dans la foi, se battaient sur deux fronts, toujours, hein. Il y avait un front juif et un front païen. C'est important, je crois que c'est un peu, enfin, on n'est plus tellement sur un front juif, nous, parce que on est forcément sur un front païen aussi. Ça peut... Et donc, les viandes qui étaient sacrifiées dans les temples étaient des abattoirs. Hein. Donc, elles étaient consommées par les gens. Et ce que dit Paul, c'est que, évidemment, les croyants tout simples, ils ont l'impression de faire un péché en mangeant une viande sacrifiée aux idoles. Alors Paul dit, le problème c'est que les gens qui sont un peu éclairés, qui sont un peu avancés dans la foi, ils savent bien que c'est de la viande et puis basta, parce que les idoles c'est rien du tout, c'est du vent. Mais que faire face aux petites gens ou face aux gens moins avancés dans la foi qui ont l'impression de faire un péché et qui ont raison en même temps aussi, hein. C'est toute cette question-là qui apparaît au chapitre 8, 9 et 10 du Corinthiens. On va le lire, puis je ferai peut-être un petit complément, parce qu'il me semble que dans le chapitre 8, c'est un peu plus explicite. Donc, c'est une autre problématique. C'est plus la cache-route, c'est les viandes sacrifiées aux idoles. Finalement, les gens dans les villes, qu'est-ce qu'ils mangeaient comme viande ? Dans les villes, ils abattaient pas leur propre... le centre d'abattage, ils n'abattaient pas leurs volailles. Le centre d'abattage, c'était les temples.
En tout cas, en ville, oui.
Oui, en ville. Les centres d'abattage, c'était les temples. Et c'est là qu'on allait. Et sur les marchés, quand vous achetiez de la viande, c'était de la viande abattue dans les temples. On a du mal à s'imaginer ça. Hein. Et donc, abattue, forcément, au nom de Zeus, d'Artémis, d'Apollon, de Dionysos, etc. Alors, que faire vis-à-vis de cette viande ? Paul finira par dire il vaut mieux pas manger de viande du tout, comme ça on n'a plus de problème. Ce qui n'est pas idiot non plus, ça pourrait rejoindre certaines modes contemporaines. Mais en tout cas, vous savez que sa réponse, c'est de dire si vous êtes invité chez des gens et qu'ils vous disent rien, vous mangez. Vous ne vous demandez pas si ça vient du temple d'Artémis ou d'Esculape. Mais si on vous dit que ça vient de là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que du coup, vous ne pouvez pas faire comme si vous ne saviez pas. Alors, dans ce cas-là, il vaut mieux s'abstenir parce qu'on risque de choquer l'autre.
si l'autre est un juif pieux, il va être choqué. S'il est un chrétien peu avancé, il va être choqué aussi parce qu'il est encore dans le judaïsme. Et si c'est un païen qui pense que c'est pas bien pour vous, il va être aussi choqué. Donc,
il va prendre ça pour une approbation.
Oui, il va prendre ça pour une approbation. Voilà, s'il l'a fait dans un esprit un peu... Voilà. Ce sera le cas, vous savez, des fameux martyrs chrétiens. On ne leur demandera pas de manger des viandes sacrifiées, on leur demandera de brûler de l'encens devant le temple de l'autel de l'empereur. Mais c'est encore un autre problème. Mais c'est vrai que pour un chrétien, normalement, l'empereur n'a aucune valeur, pas plus que les viandes des idoles. Alors, voilà, on va lire ça. C'est le fameux « tout est permis », puisqu'il n'y a plus de loi. Vous n'êtes plus sous le régime de la loi, donc tout est permis, tout est possible. Allez-y, Michel.
Tout pour la gloire de Dieu. Tout est permis, mais tout ne convient pas. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que nul ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Tout ce qu'on vend au marché, mangez-le, sans poser de questions par motif de conscience. Car la terre et tout ce qu'elle contient sont au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous acceptiez d'y aller, mangez de tout ce qui vous est offert, sans poser de questions par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « c'est de la viande sacrifiée », n'en mangez pas à cause de celui qui vous a est un motif de conscience.
Moi, je trouve que ce « tout est permis, mais tout ne convient pas »,« tout est permis, mais tout n'édifie pas », c'est quand même, ça fait, je trouve, c'est vraiment un moteur pour la réflexion éthique qui est quand même très intéressant. Surtout si on ajoute, voilà, on ne pense pas à son seul propre intérêt, mais à celui d'autrui. On a là quand même une façon de réfléchir extrêmement libérale dans un sens. Puisqu'on part du tout est permis, mais quand même, ce n'est pas du relativisme au sens où tout se vaut. On dit, ben voilà, tout ne convient pas, donc on est dans le discernement personnel sincère pour essayer de construire en vue d'une édification, c'est-à-dire de quelque chose qui construit, qui bâtit, qui rassemble, qui élève. En particulier l'autre, mais aussi le corps de l'humanité. Moi, je trouve que c'est très très beau. Voilà, et ça, je crois que dans la prière, dans le discernement personnel de ce qu'on doit faire, ça, et puis le aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même de Jésus, c'est quand même très très fort. Alors Jésus, lui, il dit, je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas mis, mais j'y pensais tout d'un coup. Il dit, c'est pas ce qui est impur qui entre dans l'homme qui va le souiller, c'est pas la question. La question, c'est ce qui sort de l'homme, c'est ça qui peut le souiller, finalement, parce que c'est puisé de son fond, finalement. Et donc ça, c'est intéressant, c'est effectivement la vraie question, je crois.
Bah, c'est devenu une phrase fondamentale pour un chrétien. Tout est permis, c'est la grande expérience de libération chrétienne. Qui annonce la libération pascale. On est libéré de la loi. Alors après, dans l'Épître aux Romains, Paul dit bien que la loi, la Torah est sainte, bien sûr, puisqu'elle vient de Dieu. Il ne s'agit pas de dire qu'elle vaut rien. Hein. Elle est sainte, mais elle est pédagogue, dit-il. C'est-à-dire qu'elle est là pour accompagner notre faiblesse, pour désigner le péché. Mais en désignant le péché, elle nous rend schizophrène parce qu'elle ne nous donne pas la force de résister au péché. Donc on voit, on connaît ce qui est mal, mais on le fait quand même parce que le mal est désigné, mais on nous donne pas la force d'obéir à la Torah. Donc nous sommes libérés, effectivement, des prescriptions. C'est ça qui est omniprésent hein, dans les Actes des Apôtres, la fameuse assemblée de Jérusalem avec Pierre, Jacques et Paul, où ils se rencontrent tous, ce qu'on a appelé le premier concile quelquefois, le concile de Jérusalem, va décider hein, de libérer les gens des prescriptions rituelles, notamment alimentaires. Donc c'est un acte quand même très, très important. Mais
pour les païens.
Pour les païens, bien sûr.
Et puis pour les juifs, ça va le devenir, parce que Paul était juif et Paul, vraisemblablement, ne vit plus à la juive. On le voit bien, il dit « je suis romain avec les romains, grec avec les grecs ». Au moment de l'incident d'Antioche, on voit bien qu'il est, il a pris du large, il a pris du champ. Et c'est une des raisons probablement du malentendu. C'est pour ça que Paul agace, hein, parce que non seulement il est apôtre après les autres, mais en plus il va beaucoup plus vite que les autres. Hein. Il passe vraiment au paganisme, à tel point qu'à un moment, il s'intéresse plus du tout à sa communauté d'origine, oui, ses co-religionnaires.
Oui, puis ce courant judéo-chrétien qui est en particulier autour de Jacques, le frère du Seigneur, le frère de Jésus, en fait, ou le cousin, on ne sait pas, enfin bref, probablement quand même le frère, qu'il soit fils de Joseph seulement ou fils de Marie, on n'en sait rien, mais ce n'est pas grave, autour de Jacques, qui est le chef de l'église de Jérusalem quand Pierre a été démis de ses fonctions. Et c'est un courant vraiment judéo-chrétien, donc c'était difficile en fait de, je vais dire, de ce nouveau courant d'ouverture et d'abandon de la cache-route, c'est très délicat. On voit qu'il y a cette tension, hein, et puisque Pierre a peur de Jacques et cache qu'il a abandonné la cache-route. Mais finalement, Jacques accepte dans ce synode, et le courant judéo-chrétien, il va disparaître en fait en 70 quand. Quand la tension après la révolte contre les Romains de certains activistes juifs, il y aura des persécutions assez intenses. Ensuite, le temple de Jérusalem va être démoli, et effectivement là les juifs disent: écoutez, les chrétiens, vous êtes sympas, mais maintenant vous commencez à avoir tellement divergé que vous êtes sympas mais vous prenez le large en fait. Et donc là, quand il y a cette coupure, quand la synagogue va chasser les judéo-chrétiens, les judéo-chrétiens, finalement, ce courant va perdre sa substance, finalement, perdre peut-être cette vitalité. Et puis, vu le nombre de païens immenses qui est déjà dans les années en 70 sont convertis au christianisme, font la grande masse, peut-être, des chrétiens, et ne vivant plus sous la loi juive, les judéo-chrétiens vont se diluer dans le christianisme pagano-chrétien. Ça sera peut-être encore pire avec Marcion, c'est quelle époque?
Deuxième siècle.
C'est deuxième siècle, mais il va y avoir un courant anti-judaïque, anti-juif très sévère, voulant éradiquer d'abord supprimer l'Ancien Testament, mais même dans les évangiles, supprimer toute référence au judaïsme. Heureusement, les chrétiens vont résister à ce courant vraiment anti-juif, mais quand même le mouvement judéo-chrétien va donc fusionner avec les pagano-chrétiens dans une église qui spiritualise en fait la loi, un peu comme on vient de le voir, je pense. Voilà.
Oui. Et alors ici. Donc la question se pose même plus du judaïsme, puisqu'il s'adresse aux Corinthiens, une communauté qu'il a fondée. Hein. Il dira justement: c'est vous qui me faites apôtre, puisque c'est. Mais les Corinthiens vivaient à la corinthienne, c'est-à-dire de façon un peu déréglée, et c'était une ville portuaire, donc vous imaginez un port méditerranéen de l'époque. Donc justement, eux, c'est pas la fidélité. Je suis désolé, mais comme ça me sert de montre, c'est pour ça que... eux, c'est pas la fidélité à la Torah qui les étouffe, évidemment, puisqu'en fait à un moment ça s'arrête, voilà. Donc eux, c'est pas la fidélité à la Torah qui les entrave. Eux, au contraire, c'est le risque inverse, c'est de se croire libéré de tout, hein, d'une certaine manière, de dire: bah, puisque tout est permis, vivons comme avant, gardons notre mode de vie païen, semi-païen. Et donc c'est la raison pour laquelle Paul ne cesse de dire: donc tout est permis, mais tout ne convient pas. Alors j'en veux pour preuve le fait que deux chapitres auparavant,
au chapitre 8, Paul le dit déjà. On aurait dû le mettre. Je vous lis ce qu'il dit dans le chapitre 8, donc deux chapitres avant ce chapitre 10. Tout est permis, dit-on, mais tout n'est pas valable. Tout est permis, tout est en mon pouvoir, mais je ne me laisserai livrer à aucun pouvoir. Donc on voit bien que c'est obsessionnel quand même, cette question de tout est permis. C'est-à-dire qu'effectivement, tout est permis, tout nous est permis à nous chrétiens. Nous ne sommes plus sous le règne d'observance rituelle, mais effectivement, tout n'est pas profitable. Et c'est là qu'il dit, les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira, et ceci et celui-là. En gros, les aliments, c'est pas grave. Le corps est non pas pour la débauche, mais pour le Seigneur. Donc c'est le fameux distinguo qu'il fait entre la nourriture et ce qu'il appelle le corps, c'est-à-dire en fait la sexualité. Et c'est très important pour comprendre le rôle de la sexualité dans le christianisme, c'est que Paul voit très bien où les Corinthiens veulent en venir, c'est-à-dire mettre la sexualité au même rang que l'assouvissement de la faim et de la soif, en disant bah, finalement, puisque tout est permis, allons-y. Et Paul dit bien, attention, c'est pas du même ordre, la sexualité c'est le corps est le temple de l'esprit, alors que la faim et la soif c'est le ventre. Il fait cette distinction, et je trouve ça très beau, parce que justement la tentation païenne c'est toujours de voir dans l'assouvissement sexuel quelque chose qui est du même ordre que l'assouvissement de la faim et de la soif. Et bien Paul dit non. Et c'est intéressant parce que on voit bien que c'est pas une question de mépris du corps. Au contraire, le mépris du corps, c'est quelque chose qui vient plutôt d'une certaine forme d'ascèse grecque, stoïcienne, etc. Il n'y a pas de mépris du corps. Au contraire, c'est une valorisation du corps. C'est parce que le corps est noble, parce
le temple
que le corps
de l'esprit, oui.
est le temple de l'esprit, parce que le corps nous fait image de Dieu, que précisément, on ne peut pas le prostituer comme ça. On ne peut pas en faire... On ne peut pas faire l'équivalent... On ne peut pas faire de la pulsion érotique quelque chose d'équivalent à la pulsion de faim ou de soif. Et je trouve que c'est très beau, et c'est précisément dans ce chapitre 8 de Corinthiens. Je vous le dis parce que c'est un texte souvent qu'on cherche. On se dit, mais où est ce fameux texte? C'est Corinthiens 8. Voilà.
C'est Corinthiens 6, là. C'est 6-12, tout est permis. Mais en 8, ce qui est intéressant...
Ah oui, c'est 6-12, pardon, c'est 6, oui.
Mais dans 8,
et en 8, c'est le passage sur les idolotites.
En 8, ce qu'il y a, c'est de dire, vous êtes sympa avec votre liberté, mais que la liberté ne soit pas un prétexte à non plus faire n'importe quoi.
Ouais.
C'est pas ça, c'est où est-ce que c'est, je suis en train de le rechercher, c'est 8... Non,
bah pour moi, 8,
ah non, c'est dans Romains.
8, c'est vraiment...
c'est 8, 9,
c'est sur la question des viandes offertes aux idoles. Je me permets de vous le lire d'ailleurs, c'est très court. Au sujet de la nourriture qui a été offerte aux idoles, parce qu'il y avait aussi des viandes sacrifiées au temple de Jérusalem, au temple juif, mais ça allait, ça c'était cachère, mais ça c'est pas cachère. Au sujet de la nourriture qui a été offerte aux idoles, je sais bien que nous avons tous la connaissance nécessaire, sous-entendu nous sommes des chrétiens éclairés, hein. Mais cette connaissance nous gonfle d'orgueil, hein, c'est l'orgueil intellectuel du théologien. Cette connaissance nous gonfle d'orgueil, tandis que l'amour devrait faire œuvre constructive. Donc il y a le savoir théologique qui nous fait mépriser tout ça, mais l'amour doit être au service de l'édification de l'Église. Celui qui croit connaître quelque chose ne connaît pas encore comme il faudrait. Ça c'est beau ça, c'est très beau. Mais celui qui aime Dieu, celui-là est vraiment connu de Dieu. Allons-nous donc manger de cette viande offerte aux idoles? Alors la réponse normalement c'est oui, puisque nous savons que les idoles ne sont rien du tout. Il n'y a pas de Dieu sauf le Dieu unique. Bien qu'il y ait en effet au ciel et sur la terre des êtres qu'on appelle des dieux, alors là il essaie de sauver les petits dieux grecs, et il y a une quantité de dieux et de seigneurs, pour nous en tout cas il n'y a qu'un seul Dieu. Ça, il est assez bon quand même, ce qui parle à d'anciens païens quand même.
Hein,
je pense au curé autrefois dans les campagnes qui disait oui on vous a dit qu'à la source là-bas il y avait des trucs... Bon, on va dire que c'est la Vierge qui vient, alors que c'était les fées ou des choses comme ça. Moi, j'ai grandi là-dedans, ça me fascine. Il est, pastoralement, il est génial. Il est génial. Il dit, au fond, il y a plein de petits dieux, mais ils ne sont pas si dieux. Ils sont pas si dieux que ça. Donc, au fond, il n'y a qu'un dieu. Bon, pour nous, en tout cas, il n'y a qu'un dieu, le Père de qui tout vient et vers qui nous allons. Il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus, le Christ, par qui tout existe et par qui nous existons. Mais tout le monde n'a pas cette connaissance de Dieu. Tout le monde n'a pas été au cathé. Certains ont été jusqu'ici habitués aux idoles et y croient faire un geste d'idolâtrie en mangeant de cette viande. Comme leur conscience est faible, ils se sentent coupables. Ce n'est pas un aliment qui nous rapprochera de Dieu. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Sous-entendu, ça sert à rien. Mais prenez garde que l'usage de vos droits ne soit une occasion de chute pour les faibles. Ça, il y revient souvent. C'est exactement comme quand on est invité, je ne sais pas, ou qu'on reçoit quelqu'un un vendredi de carême. Mutatis mutandis, parce que ça n'a rien à voir, mais on reçoit quelqu'un un vendredi de carême. Et puis, soi-même, bon, on a pris des habitudes un peu libérales, on sait très bien que ce n'est pas si important, que l'essentiel c'est de faire des efforts, et que on a pris l'habitude un peu de répartir les efforts un peu comme on veut. Mais on reçoit quelqu'un dont on ne sait pas si, par son éducation, il va être heurté. Et bien dans ce cas-là, dit saint Paul, il faut... D'ailleurs, ce n'est pas une question de degré intellectuel. Quand il dit les faibles, c'est ceux qui sont plus dépendants d'une vision traditionnelle, on pourrait dire. Hein, et qui est tout à fait respectable, d'ailleurs. Et que je partage, en plus. C'est ça qui est fou. Donc, en effet, si l'un d'eux te voit attablé dans le temple d'une idole, parce qu'il y avait des restaurants dans les temples, toi qui as cette connaissance, est-ce un exemple constructif pour cet autre homme qui a la conscience plus faible? Ne vas-tu pas le pousser à manger de la viande offerte aux idoles? Et la connaissance que tu as va faire périr le faible, ce faible pour qui le Christ est mort. Ça, c'est toujours Paul aussi, de revenir à l'essentiel, le Christ est mort pour toi. Ainsi, en péchant contre vos frères, etc.
Vous irez voir ça. C'est que l'édification, ce n'est pas simplement l'édification personnelle.
Voilà.
C'est tout le problème du passage au christianisme, où ce n'est plus l'alliance avec un peuple, mais avec un individu. Mais quand même, il faut penser à l'édification d'un corps, quand même, qu'il n'y ait pas un émiettement. Donc l'édification dont on parle, ce n'est plus seulement l'édification de soi-même, c'est aussi l'édification de ce corps.
Et comme dit saint Paul dans l'Épître aux Romains, le royaume de Dieu n'est pas seulement une question de nourriture et de boisson. Il dit ça.
Oui, mais c'est aussi...
Car le royaume de Dieu... Oui, car le royaume de Dieu est... On avait fait ça une année.
C'est plus que le boire et le manger.
Le royaume de Dieu est justice, paix et joie dans l'Esprit Saint.
Oui, c'est quand même ça, c'est tout un programme.
Oui.
Voilà. Donc on se retrouve le 24 mai.